voudrais vous raconter l'histoire du corps, ou en tout cas du corps en Occident. Il a longtemps eu la vie dure, ce corps. Socrate et Platon en ont fait la prison de l'âme, quand d'autres n'y virent qu'un tas de viscères, de muscles et de tendons. Apprendre à penser, ce fut longtemps apprendre à se détourner du corps, à s'arracher à cette simple matière, à cette pauvre étendue, pour réussir enfin à lever les yeux vers le ciel des idées. Cette haine du corps est même, d'après Nietzsche, le terreau de l'Occident. Si le christianisme est, d'après l'auteur d'Ecce Homo, un platonisme du pauvre, c'est parce qu'il triomphe le même mépris du corps, le même idéalisme. C'est pourtant bien en tant que corps que nous habitons le monde. Notre corps est pris, écrit joliment Merleau-Ponty, dans le tissu du monde, dans la chair du monde. Et c'est à partir de cette inscription comme corps, au milieu même du monde, que nous pouvons ressentir, percevoir, jouir, mais aussi saisir, comprendre et finalement être présent au monde. Car oui, ainsi que l'écrit Nietzsche, le corps pense. Et si le corps était notre plus belle intelligence ? N'est-ce pas le corps qui nous prévient d'un danger ? N'est-ce pas le corps qui garde intacte la mémoire d'un apprentissage ? N'est-ce pas le corps et ses symptômes qui nous alertent lorsque nous nous épuisons à la tâche dans un bullshit job, lorsque nous nous mentons à nous-mêmes, lorsque nous trahissons notre désir ? Nos yeux ne sont-ils pas intelligents lorsqu'ils se posent sur un tableau de Velázquez et qu'ils nous semblent d'un coup comprendre ce que le pouvoir fait aux hommes ? Nos oreilles ne sont-elles pas intelligentes lorsqu'elles nous ouvrent à une chanson de Bowie et qu'il nous semble d'un coup tout saisir de la vie ? Je voudrais vous raconter l'histoire du corps, ou plutôt, l'histoire d'un homme. Un homme qui sait que le corps pense. Un homme qui est cycliste et philosophe, mais qui, en bon Nietzschéen, se méfie des étiquettes, alors je vais le présenter autrement. Flaubert disait qu'on ne peut penser qu'assis. Nietzsche objectait que les seules véritables pensées viennent en marchant. Eh bien, notre homme, notre invité aujourd'hui, réconcilie Flaubert et Nietzsche. Sur son vélo, il est assis, et ses coups de pédale sont comme une marche conquérante. Il n'y a qu'à voir son coup de pédale, comme on regarde un revers de Federer ou un but de Zlatan, pour comprendre qu'en effet, le corps pense. Pour en parler ce matin, de ce corps qui pense et qui pense tellement bien, j'ai la joie donc de recevoir Guillaume Martin, cycliste, philosophe, dramaturge, Guillaume Martin, 8e du Tour de France 2021, qui nous a rejoint ce matin, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à répondre à cette belle question: que peut vraiment le corps ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Guillaume Martin, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous ressemblez beaucoup à ce personnage. Hein. Vous êtes en effet un cycliste professionnel. Vous êtes aussi écrivain, vous êtes aussi dramaturge. Parmi vos livres, il y a Socrate à vélo, une sorte de fantaisie assez personnelle. Il y a aussi plus récemment un essai plus classique, La société du peloton. Vous avez aussi écrit une pièce de théâtre, Platon versus Platoche. Mais je tiens à préciser tout de suite quelque chose de particulier à nos auditeurs. C'est que le Tour de France s'est conclu hier, le 24 juillet, que cette émission est diffusée le 25 juillet, donc aujourd'hui pour vous qui nous écoutez, mais que nous l'avons enregistrée en raison de l'agenda de Guillaume Martin avant le Tour de France. Donc, chers auditeurs, vous savez, pendant que vous nous écoutez, si Guillaume Martin a gagné le Tour de France hier, ce que je vous souhaite, Guillaume, ou alors s'il a abandonné le deuxième jour, ou alors si on est entre les deux. Mais bien sûr, comprenez que nous, au moment où nous nous rencontrons, Guillaume Martin et moi, eh bien, nous ne le savons pas.
C'est une belle expérience philosophique, une belle expérience de pensée, oui.
Oui, alors Guillaume Martin, j'ai adoré vos livres. Socrate à vélo est une sorte de fantaisie dans laquelle on voit Socrate, Platon sur des vélos, et puis vous en profitez pour parler beaucoup de vous-même. Et l'autre livre, La société du peloton, est plutôt une manière plus classique, dans un essai, de penser la question du collectif à la lumière de la question du cyclisme, et notamment de la question du peloton. Mais je voudrais revenir à la question centrale de notre échange, sur le corps, au fond, ce que peut le corps, donc c'est une phrase de Spinoza, au fond nous ne savons pas ce que peut le corps. Je voudrais vous demander un peu cash au début comme ça, comment votre corps pense-t-il ?
Cash est difficile comme question, parce que je pense que justement on peut difficilement analyser le corps, et si on l'analyse en réalité, on est déjà dans une position un peu de surplomb, et on sous-entend qu'il y aurait un intellect ou mon individualité serait supérieure au corps. En réalité, je pense que le corps est vraiment mystérieux et a son intelligence propre, qui est parfois et souvent ingouvernable.
Ouais. D'ailleurs, vous savez, je vous interromps, mais c'est parce que vous avez dit un truc très juste. La phrase de Spinoza dans l'éthique, nous ne savons pas ce que peut le corps. en fait, elle est souvent mal interprétée. On pense qu'il veut dire, oui, le corps a tout puissant et on ne le sait pas. Non, il veut dire que c'est mystérieux, justement. Et qu'on ne sait pas exactement ce que peut le corps, même si on se doute qu'il peut plus qu'on l'imagine.
Et ça, on en fait vraiment l'expérience sur le vélo, parce que généralement, il y a des tendances, des dynamiques. On a des états de forme qui s'améliorent ou qui diminuent au fur et à mesure d'un grand tour, par exemple.
Ouais.
Mais parfois, on comprend pas et on a un jour de grâce et il n'y a pas d'explication. Le corps réagit parfaitement et on est super bien, alors qu'il n'y a aucun élément objectif qui prédit ça. Et à d'autres moments, normalement, tout devrait bien se passer. Et puis finalement, on a un jour sans. Et parfois, c'est même dans la même journée. En début d'étape, on peut être très mauvais et en fin d'étape, très bon. Et ça fait déjà quelques années que je fais du vélo, quelques années que je suis professionnel. J'arrive toujours pas à comprendre mon corps. Donc, il a vraiment... le corps pense et le corps a son intelligence propre, oui.
Et je précise que vous êtes dans l'équipe Cofidis. Dans votre livre, Socrate à vélo, vous citez cette phrase de Nietzsche, « L'homme éveillé, l'homme qui sait, dit... Je suis corps absolument et rien d'autre. Et âme n'est qu'un mot pour désigner une qualité du corps. Le corps est une grande raison. » C'est une phrase de Nietzsche. Je reviens à ce que vous venez de dire, la grâce qui vous surprend parfois. On va essayer de l'analyser, puisque là, on est en train de penser et de parler. Est-ce que vous croyez que dans ce moment-là, c'est le corps qui exprime sa grâce propre en tant que corps? Ou alors que justement, il est visité par autre chose qui pourrait être l'esprit, l'âme? Et pourquoi pas ce qu'on appelle le mental?
Non, moi je suis plutôt vraiment dans la position inverse, qui est une position nietzschienne, et Nietzsche, il effectue un vrai renversement en disant, contrairement à toute la tradition, que le corps n'est pas un outil de l'âme ou le prolongement de l'âme, mais en renversant les choses et en disant que c'est finalement l'âme qui est un produit du corps. Le corps est premier. Vraiment ça, tout le scandale opéré par Nietzsche, dire que le corps est premier et donc incontrôlable. Et ça aussi, j'en fais l'expérience sur le vélo. Je m'érige assez souvent contre ce mythe du mental qu'on entend très souvent dans le sport. C'est dans la tête. Cette phrase, elle est répétée tout le temps au niveau professionnel, au niveau amateur.
En réalité,
dans un col, là on est le 25 juillet, juste avant le Tour de France.
J'anticipe
un petit peu quelques étapes où je vais peut-être avoir des difficultés, avoir mal aux jambes certainement. Quand je suis à fond dans un col, j'ai beau me dire dans la tête, ce n'est rien, la douleur n'est rien. Dans les faits, mon corps ne peut pas plus. Donc c'est vraiment le corps qui est premier à mon sens.
Et alors vous, donc qui êtes à la fois cycliste, philosophe et dramaturge, comment vous le considérez, votre corps? Vous diriez que c'est votre ami? Vous diriez que c'est votre meilleur ennemi? Vous diriez que c'est vous-même, que c'est plus que vous-même, qu'il est traversé? Enfin, comment vous le voyez, votre corps, au fond?
Déjà, c'est très dur et c'est toujours très délicat de parler de ces sujets-là, simplement d'un point de vue sémantique. Dire que le corps est moi-même, que je suis mon corps, ça sous-entend déjà qu'il y a une distance par rapport à mon corps. Donc je pense que les mots, en fait, introduisent déjà cette distance et un décalage par rapport au rapport premier, intime qu'on a au corps. Mais en fait, je suis très embêté pour parler de ça, parce que quand je parle de rapport, là aussi, je sous-entends qu'il y a un décalage. À mon sens, il n'y a vraiment pas de décalage. On pourrait dire qu'il y a un corps. Et la notion d'identité, dire je suis un corps, c'est déjà supposer qu'il y a un jeu à côté du corps.
Mais par exemple, quand vous le vélo, on voit que parfois c'est vraiment dur et qu'il y a quand même la volonté est convoquée. Cette volonté, dans la tradition occidentale, elle est présentée comme très souvent la reine des facultés. On parle de volontarisme occidental. Descartes est même allé jusqu'à dire que ce que nous avons en nous de divin, c'est-à-dire qui peut s'illimiter, qui peut se développer jusqu'à l'infini, c'est la volonté, sous-entendu, et non pas l'intelligence qui est limitée. Comment vous vivez cette épreuve de la volonté en pleine douleur dans une course cycliste?
C'est des expériences assez particulières qu'on peut avoir rarement dans le monde pro.
Ouais.
Ces instants de grâce dont je parlais tout à l'heure, où justement il n'y a plus de dissociation entre corps et esprit, où on est pleinement corps, et... on est là sans être là. C'est une forme d'extase.
Ouais, c'est ça.
Comme certains auditeurs peuvent peut-être l'avoir en faisant de la course à pied. C'est aussi un sport qui permet d'atteindre cet état un peu second d'ivresse. de pleine identité à son corps. Et je pense que là, c'est le corps qui exprime sa volonté en propre, sans le truchement de l'esprit ou de quoi que ce soit.
Oui. Alors cette phrase que vous venez de dire, elle est vraiment une critique de Descartes. Hein. Quand vous dites c'est le corps qui exprime sa volonté propre, pour Descartes, c'est justement la volonté au sein d'un dualisme qui est du côté de l'esprit et qui peut imposer au corps. Pour bien comprendre que le sportif de haut niveau que vous êtes, le cycliste que vous êtes, est un véritable écrivain, un véritable penseur, je voudrais lire un extrait de votre dernier essai, La société du peloton, de Guillaume Martin, donc paru chez Grasset. Je vais lire cet extrait dans lequel on va entendre résonner justement ce que vous venez de dire, cette très belle référence au fond à la présence. J'aurais envie de dire à la présence, tout simplement. Quand je pars rouler l'hiver, seul dans l'humidité normande, parfois pendant 5-6 heures, il m'arrive de m'interroger sur ce qui me pousse à m'infliger cela. J'ai froid, je m'ennuie. Les beaux paysages du bocage et les discussions avec quelques compagnons de route ne suffisent pas toujours à égayer mes sorties. La plupart du temps, mon métier est une passion, parfois il s'agit d'un devoir. Des pensées me traversent alors l'esprit pendant que je regarde mes jambes tourner mécaniquement. Ne suis-je pas idiot de m'infliger cela? Vers quel but est-ce que je pédale? Ne serais-je pas mieux au coin d'un feu à boire un thé chaud et à bouquiner? Je pourrais écrire des livres plutôt qu'être cycliste, ce serait plus confortable. Je pourrais choisir un travail plus classique, moins contraignant, une profession où je ne finirai pas ma journée les mains gelées, un goût de sang dans la gorge, où je ne me réveillerai pas tous les matins avec une décharge électrique me traversant les jambes, réminiscence lactique de l'entraînement de la veille. Ces moments d'égarement ne durent pas longtemps, car je me rappelle vite les vertus de ces heures incommodes. Elles me permettent de m'éprouver comme corps, de conquérir ma matérialité première. En meurtrissant ma carcasse, je l'expérimente. Je prends conscience qu'elle existe, qu'elle est même la seule chose d'importance. J'ai mal, bien sûr, mais au moins, je ressens quelque chose. Cette maltraitance que je m'impose à moi-même est une forme d'acquiescement à la vie, un refus de l'anesthésie générale que propose un certain type de société. Alors là, on y est, hein. C'est beau, j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Ce rapport à la douleur, on a l'impression que vous le voyez, pour le coup, de manière nietzschéenne, hein, comme une manière d'expérimenter que vous êtes vivant, tout simplement.
Oui, bah, je pense que pour parler de ça, il faut peut-être reparler du concept d'éternel retour de Nietzsche, qui, ouais. Qui est une expérience de pensée, et plus que ça, une expérience de vie et une sorte de défi à l'éternel retour. C'est cette idée que le monde reviendrait un nombre infini de fois et que, surtout, il faudrait non seulement accepter que toutes nos expériences passées, par exemple, plaisir, mais aussi douleur, reviennent un nombre infini de fois. Il faut imaginer ce que c'est que l'éternité. Mais il faut non seulement l'accepter, mais il faut même plus que ça, le vouloir.
Ouais.
C'est la notion d'amor fati, c'est le amour du destin, de ce qui est. C'est une expérience terrible, en réalité, parce qu'il y a certaines douleurs que, évidemment, sur le moment, on se dit « plus jamais ça ». Et pourtant, selon Nietzsche, et peut-être selon les cyclistes,
bah oui.
Enfin, en tout cas, c'est ce que le cyclisme propose, qui est un sport extrêmement dur, on y revient. Il faut y revenir.
Ouais. Le tour,
il faut aimer y revenir.
Le tour et l'éternel retour. Et puis le coup de pédale aussi, et puis la roue qui tourne.
Ah, il y a vraiment une idée de ouais. cercle, évidemment, ouais. toujours dans le vélo. Et j'ai eu plusieurs fois ce type d'expérience, notamment lors de mon premier Tour de France en 2017. La dernière semaine était assez terrible pour moi. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir. J'étais complètement épuisé. Il y avait certains cols. L'objectif, c'était pas d'arriver en haut le plus vite possible. C'était simplement d'arriver en haut.
Et
au milieu de ces moments de souffrance, je sais pas s'il m'a aidé, mais par contre, j'ai compris certaines choses. À ce moment-là, je me disais plus jamais ça. Et puis, évidemment, dès que je suis arrivé sur les Champs-Élysées, j'ai eu envie d'y retourner l'année d'après. Donc,
mais il y a quand même une question que ça pose. C'est est-ce que l'éternel retour est vraiment, comme on l'interprète parfois chez Nietzsche, l'éternel retour du même? Tout revient toujours, notamment plaisir et peine. Et c'est pour ça aussi qu'il y a du plaisir parce qu'il y a de la peine. Ou est-ce qu'on pourrait pas penser un éternel retour un peu sélectif? C'est l'interprétation qu'en fait Deleuze, où en fait, il y a quand même du progrès. Et tout ne revient pas à l'identique.
Je pense que Deleuze le voit surtout, enfin insiste sur la notion, sur l'expérience éthique.
Oui, comment on progresse, quoi.
Comment... Je sais pas si il y a vraiment ça chez Nietzsche. Enfin, la notion de progrès, justement, était assez critiquée par Nietzsche.
Oui, c'est vrai.
Je pense que c'est assez... Non, c'est une expérience, oui, traumatisante, un défi. Après, Nietzsche disait que... je crois que personne n'avait jamais réussi à pratiquer cette expérience pleinement. Donc on est toujours faible par rapport à ça. On est toujours humain, trop humain. Donc on est parfois dans le ressentiment, malgré nous, même si on sait qu'il faudrait
contre vous-même.
Ça ne sert à rien contre nous-mêmes.
Contre la souffrance, ouais, bien sûr.
De toute façon, l'humain est compliqué, plein de contradictions, et parfois il y a certaines choses qu'il sait devoir faire et qu'il malgré tout ne fait pas. Oui.
En tout cas, on a entendu la belle référence au concept nietzschéen de surhumain dans votre bouche de cycliste et aussi d'écrivain et de philosophe. On va en parler après parce que c'est intéressant de savoir si c'est cette expérience de la surhumanité que vous vivez en plein col, sous le cagnard, ou si au contraire on peut pas l'entendre autrement, ce concept nietzschéen. Bicycle. I want to ride my
choice.
Say Lord.
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
C'était Queen, Bicycle Race.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Guillaume Martin, cycliste, sportif de haut niveau évidemment, dramaturge, écrivain, essayiste. Nous sommes le 25 juillet, le Tour de France c'était hier, l'arrivée. Mais je rappelle à nos auditeurs que nous avons enregistré l'émission avant le début du Tour de France. Donc je ne sais pas si Guillaume Martin, que je vois face à moi maintenant, a gagné le Tour de France, ce que je souhaite de tout mon cœur, ou s'il a eu un résultat un petit peu moins bon. En revanche, ce que je sais, Guillaume Martin, c'est que quand on a écouté cette chanson de Queen, Bicycle Race, vous avez dit « ça me donne envie de rouler ». Et vous m'avez dit que vous rouliez parfois en musique avec, je rassure les auditeurs, une oreillette pour la musique, l'autre pour entendre la route. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé du plaisir, finalement.
Parce qu'il est, on a presque parlé, parce que le plaisir, en fait, dans le vélo, il est mêlé à la souffrance. C'est ça tout le paradoxe. Et c'est, quand on parlait de l'éternel retour, c'est un peu ça. C'est que finalement, il n'y a pas d'un côté le plaisir, à l'autre côté la peine. Il y a un mix de tout ça. Et c'est ça qui est très étrange dans le sport et dans le vélo en particulier. C'est que, au milieu de toute cette souffrance, il y a du plaisir. Et le plaisir n'est pas spécialement la récompense. C'est pas, voilà, il y a beaucoup de souffrance qui me permet d'atteindre un bon résultat et ensuite j'ai du plaisir parce que je suis heureux de ce résultat. Sinon, il y a du plaisir vraiment au milieu de la souffrance mélangée. C'est ça qui est très, très étrange, très perturbant. Il y a évidemment une forme de masochisme là-dedans et qui est un peu presque dérangeante quand on y pense.
Et c'est vrai que tout ce que vous dites est extrêmement nietzschéen. Nietzsche nous explique vraiment ça, qu'il n'y a pas le bien, le mal, il n'y a pas des catégories claires où il y aurait d'un côté la jouissance, de l'autre côté la souffrance, que les choses sont très rigoureusement entrecroisées. Ce que vous expérimentez en fait en tant que cycliste, c'est dingue.
Oui, pour le coup, peut-être à l'opposé de toute une tradition philosophique qui a voulu, comme Platon, analyser les choses, découper en bouchées.
On est quand même sous le soleil de Platon, alors.
Pardon.
Soyons un peu respectueux.
Mais j'ai fait une pièce de théâtre qui s'appelle Platon versus Platoche, donc ouais. J'essaye de ne pas caricaturer Platon non plus, mais c'est lui-même qui se présente.
Platoche, c'est la caricature et Platon, c'est le vrai, c'est ça?
Platoche était un peu le double maléfique de Platon, le double vivant de ce philosophe qui serait simplement dans les nuées.
Et bien sûr, c'est ça. Alors revenons à Nietzsche, parce que je trouve ça très intéressant de vous utiliser, alors Nietzsche disait qu'on avait souvent un rapport instrumental aux choses et que c'était comme ça la vie, de vous utiliser pour déconstruire un peu, d'utiliser le cycliste et le philosophe que vous êtes, pour déconstruire des préjugés sur Nietzsche. On a vu tout à l'heure le concept d'éternel retour, que vous avez l'occasion d'éprouver dans votre chair, en pédalant au fond, en tournant parfois sur une piste, avec ce mouvement de la pédale qui revient. Mais il y a un autre concept que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le surhumain. Alors, je sais que vous n'êtes pas pour l'homme augmenté, l'homme dopé, mais du coup, il y a peut-être un malentendu sur ce concept nietzschéen. Comment vous l'entendez-vous, le surhumain chez Nietzsche, et comment vous le vivez en tant que cycliste?
Déjà, vous me replongez dans mes souvenirs d'étudiant, puisque c'était plus ou moins l'objet de mon mémoire de master, où j'essayais de repenser justement ces concepts qui ont été souvent dévoyés. Le concept de surhumain a déjà été dévoyé de manière tragique par les nazis. Alors, de manière moins grave, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de mésinterprétations de Nietzsche. Déjà, je suis heureux que vous parliez de surhumain et pas de surhomme, parce que je crois que le terme allemand, c'est Übermensch, donc c'est l'humain, c'est évidemment pas genré. Et le surhumain n'est certainement pas quelque chose au-dessus de tous les humains existants, ou quelqu'un amené à dominer les autres humains. Il n'y a vraiment pas cette notion de domination chez Nietzsche. C'est plutôt quelqu'un qui est pleinement humain, renaturalisé. Et donc par rapport à la question justement de l'homme augmenté, de donc du dopage aussi, c'est en partant de Nietzsche, c'est un moyen pour moi de discréditer le dopage. On pourrait dire que le surhumain, on pourrait penser par une mauvaise interprétation que le surhumain est celui qui se dope. À l'inverse, c'est celui qui refuse par éthique, par une sorte de noblesse chevaleresque de se doper, parce qu'être pleinement humain, c'est être renaturalisé, oui.
Exactement. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous éprouvez dans votre souci de dépassement de soi au cœur de la souffrance en pleine course, c'est plutôt d'arriver à être pleinement humain, pas à dépasser l'humanité, au fond.
Voilà, sinon, en fait, le château de cartes s'effondre, tout perd tout son sens. Si on triche, si on s'écarte des règles du jeu, les règles du jeu ne servent qu'à créer un sens, une bulle, dans un monde insensé, bien assez vide de sens. Et si par la triche, on perce cette bulle, on risque de s'effondrer dans un néant assez, assez tragique.
Ça risque de coûter cher, quoi. Votre interprétation du surhumain chez Nietzsche, qui est la bonne, hein, je précise pour nos auditeurs que pourquoi il y a eu un malentendu, parce qu'à la mort de Nietzsche, c'est sa sœur qui était mariée à un nationaliste raciste, qui a tordu les textes, notamment le concept de surhumain, et aussi celui de volonté de puissance, pour en faire quelque chose d'agressif, alors que c'était plutôt quelque chose d'humaniste, au fond. Autre concept que je voudrais déconstruire avec vous, c'est la volonté de puissance. Vous en parlez dans le livre, et vous nous éclairez sur le fait que ça ne veut surtout pas dire puissance par rapport aux autres, ni même vouloir dépasser les autres, au fond.
Non, c'est ça, c'est encore une fois, volonté de puissance, c'est pas volonté de dominer, c'est plutôt, ça décrit plutôt une force qui nous anime tous, qui anime vraiment même toutes les choses. C'est vraiment la puissance qui est centrale là-dedans. C'est dans ce concept, c'est pas le mot de volonté, c'est le mot de puissance. C'est la puissance qui veut, et c'est non c'est pas ça, ouais. Volonté de dominer. C'est la puissance qui nous anime tous. Oui.
Une puissance d'exister, au fond.
Oui, c'est dans la tradition, dans la suite de Spinoza aussi du Conatus, c'est dans cet héritage. Oui.
Vous voulez dire un élan vital presque au fond. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens entendent parfois, c'est volonté de puissance comme de dominer les autres. En fait, ça veut plutôt dire, d'après vous, mais enfin, vous avez raison, je pense, puissance d'une volonté d'exister, puissance d'une volonté individuelle. Et en plus, on ajoute à ça que cette volonté n'est pas mentale, mais elle est aussi l'œuvre du corps au fond.
Oui, bien sûr. Et c'est une puissance d'affirmation de soi qui peut s'exprimer à travers l'autre. Il ne faut pas non plus écarter toutes les pulsions et parfois des pulsions de jalousie ou agressive qui nous anime. Et la compétition sportive peut servir à ça. Mais l'autre ne doit pas être quelqu'un que l'on cherche à dominer, à tyranniser. La volonté de puissance, c'est pas une volonté tyrannique. L'autre, finalement, est une sorte d'aiguillon pour l'affirmation de nous-mêmes.
J'adore la traversée de Paris, parce que c'est une ville comme une autre grande ville, qui bouge, qui change, et traverser Paris le matin, traverser Paris à midi ou traverser Paris le soir, c'est voir la capitale comme elle, selon son rythme de vie, à des moments différents. Et donc c'est vrai que j'adore voir, j'adore regarder autour de moi et j'adore me laisser surprendre. L'étonnement fait partie de mon métier, mais fait partie de ma vie d'abord, avant d'être un métier. Et le véno me donne un étonnement que je ne trouve pas forcément autrement.
C'était un extrait de Pierre-Louis Després, écrivain et donc visiblement cycliste. Est-ce que ça vous arrive, en pleine compétition, malgré l'effort, finalement, d'être étonné de ce que vous voyez et d'être dans une sorte de contemplation esthétique ?
Je fais parfois ce genre d'expérience dans un col, en fin de course, alors que je suis justement pleinement dans l'action. C'est un peu une expérience inverse à celle que je décrivais tout à l'heure. Parfois, je m'extrais de ça et oui, je regarde les paysages. Alors, j'ai très mal aux jambes, bien sûr, ouais. Mais néanmoins, j'ai un œil un peu de spectateur. Je regarde les spectateurs qui me regardent moi. C'est une sorte de mise en abîme étrange et je peux regarder le paysage et me dire tiens, c'est joli en fait ici, ces paysages de montagne que j'ai traversé depuis 4 heures avant, depuis, je sais pas, 150 kilomètres, sans les voir ouais. Parce que j'étais occupé, évidemment, par la course. Et il y a des moments, oui, de lucidité comme ça, assez étrange, ça m'arrive, oui.
Et puis j'imagine que parfois on sort de cette contemplation et on s'échappe et on tente le coup. Qu'est-ce qu'on ressent dans une échappée comme ça? Parce que le mot est dingue, déjà, une échappée. C'est presque une vision de l'idéal de la vie, réussir à s'échapper, quoi.
Oui, et s'échapper du peloton, de la masse. Ouais. Enfin, ça, c'est vraiment tout le sel pour moi du vélo. C'est ce lien entre le collectif et l'individu, entre le peloton et ce peloton qui rassure.
Ouais.
C'est plus facile d'être au milieu du peloton que d'être échappé pour des raisons aérodynamiques, évidemment.
Ouais.
Mais néanmoins, on a toujours envie de s'isoler. Qu'est-ce qu'on ressent? Il y a une forme, oui, d'excitation, oui, l'excitation de l'inconnu, parce que on prend un risque toujours quand on attaque.
Ouais.
On risque de tout perdre aussi, de se faire rattraper, de plus avoir d'énergie et de se faire lâcher du peloton.
On risque de payer cher le fait d'avoir voulu être une singularité qui s'arrache au troupeau, quoi.
Bien sûr, et en même temps, c'est là aussi très plaisant, très très excitant, mais c'est là. Oui, je pense que c'est la vie, et c'est la vie en société, ça, de d'être toujours un peu tyrannisé entre ce désir d'être rassuré, d'être comme tout le monde, et, ouais, et ce désir de s'échapper. On aime bien être dans la ville, et puis on aime bien être, ouais, au calme à la campagne, et quand on est au calme à la campagne, on a envie à nouveau de retrouver le fourmillement de la ville, et
mais à ceci s'ajoute,
un balancier permanent.
À ceci s'ajoute que vous faites partie d'une équipe, en l'occurrence Cofidis, que vous avez, je le rappelle, une oreillette avec beaucoup d'instructions. Alors je sais que parfois vous ne l'entendez pas parce qu'il y a du bruit, il y a du vent, mais quand même, est-ce que parfois vous désobéissez à l'oreillette, par exemple, pour une échappée qu'on vous a interdite?
Ça peut arriver. Après, je pense que nos directeurs sportifs, notre management peut comprendre aussi que parfois il y a des décisions qui doivent se prendre sur le terrain, dans l'instant, par instinct,
ouais,
et que si on attend la directive, il sera trop tard, parce que il faut savoir que le directeur sportif, il est dans la voiture, parfois, ouais, 500 mètres plus loin, et qu'il voit tout, ou qu'il a les informations toujours un peu en décalé. Donc, par rapport à cette question de l'oreillette, je pense que il y a toujours quand même une intelligence humaine qui devancera tous ces outils technologiques. On peut élargir, ouais, justement le débat sur la question entre la place de plus importante de la science dans le sport et de la société. Hein, on veut de plus en plus contrôler tout, mais je reste persuadé qu'il y aura une part d'humain qui va surnager au milieu de tout ça. Ouais.
Tant mieux, on espère. Mais au moment de la décision, j'aimerais qu'on se concentre sur cette seconde où vous dites « ouais, j'y vais ». Qu'est-ce qui fait la décision, au fond? Parce que, est-ce que c'est le corps?
Si impossible à analyser, je pense que c'est, ouais, c'est le corps, oui. Je pense que c'est le
donc on est d'accord, corps, c'est pas mental, là. C'est pas « allez, maintenant, j'y vais, j'ai pas réfléchi ».
Alors, parfois, on peut avoir justement l'info à l'oreillette.
Ah oui, on dit « c'est
là,
le moment,
c'est,
vas-y ».
C'est le bon moment, mais le plus souvent, enfin, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est un peu irréfléchi. Alors parfois je fais des bêtises, ouais, d'ailleurs justement je me fais un peu emporter par ma fougue, et quand je,
oui, parce
suis
que
attaqué,
ce qu'il faut
je
dire,
me rends compte que mince, j'aurais pas
ce
dû
ce qu'il faut dire aux
auditeurs
de France Inter qui sont pas tous très nécessairement compétents en cyclisme, c'est que vous faites partie de d'individus qui attaquent, quoi. Vous êtes un conquérant, vous êtes, c'est votre nature, c'est votre tempérament de sportif de haut niveau. Je reviens à la décision, parce que justement c'est Nietzsche qui a dit un truc génial au sujet de la décision. Il dit en fait ça décide en nous. Et rétroactivement, on fait comme si on avait décidé par une décision de la conscience mentale, comme si on courait toujours derrière une décision qui a toujours déjà eu lieu, et qu'on voulait rétroactivement s'accaparer la souveraineté d'une décision qui, en fait, s'est faite en nous, dans notre corps. C'est ça que vous racontez, en fait.
C'est exactement l'expérience que je fais sur le vélo, et qu'on doit faire aussi, parce que directement, dès qu'on passe l'arrivée, on est interviewé et on doit analyser notre ouais, course. Et c'est toujours assez surprenant, et je me surprends moi-même d'ailleurs de 20 secondes après avoir passé la ligne à analyser des choses qui se sont faites naturellement et de manière semi-consciente, pour ne pas dire inconsciente. Quand on lance un sprint, c'est le moment presque le plus instinctif d'une course. Il faut savoir vraiment lancer au bon moment. À 300 mètres, c'est souvent trop tôt. À 100 mètres de l'arrivée, c'est souvent trop tard.
C'est génial, ouais.
Et ça, on peut pas, une oreillette peut évidemment pas nous le dire. Et consciemment, on peut pas, il faut sentir le moment. Mais après, on vient analyser, on dit, oui, j'ai lancé à ce moment-là parce que je voyais un coureur qui remontait, parce que j'étais gêné par les barrières, etc. Mais dans les faits, ça se fait instinctivement, oui.
Finalement, ce que vous dites, ça s'appelle post-rationaliser, et c'est ce que font plein de gens, des décideuses, des décideurs en entreprise, qui en fait le font comme vous, hein. Et puis après, pour expliquer aux gens, vont post-rationaliser, ou alors on imagine beaucoup dans des histoires de couple, hein, on s'installe ensemble, on se quitte, on se sépare, on se retrouve, c'est le même genre de décision. En fait, moi j'ai l'impression que notre corps est un théâtre dans lequel, c'est ce que dit Nietzsche, hein, s'agite plein de choses, et puis à un moment, il y a des trucs qui l'emportent sur d'autres, et puis nous on dit, avec une arrogance déplacé, c'est mon choix, j'ai décidé. c'était Donna Blue, Solitaire.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous avons toujours la joie d'être avec Guillaume Martin, cycliste, philosophe et dramaturge. Je vous rappelle que nous sommes le 25 juillet, que le Tour de France est arrivé hier, mais que nous avons enregistré l'émission avant. Donc nous ne connaissons pas les résultats. Mais ça n'empêche pas de parler, et même de se parler en toute confiance. Pendant qu'on écoutait cette chanson, Solitaire, on discutait avec Guillaume Martin de ce moment comme ça où le coureur s'échappe, où il tente de jouer la carte de sa singularité. Et puis on revenait sur la décision. Cette idée, quand vous dites, voilà, à un moment, je décide d'y aller. En fait, la décision se fait jour en moi, et vous me confiez votre agacement par rapport à trop de rationalisation a posteriori, notamment dans les entreprises. Est-ce que vous ne croyez pas que peut-être ce qui pourrait nous éclairer sur ce moment où vous tentez le sprint, par exemple à 150 mètres de l'arrivée, vous décidez d'y aller, c'est peut-être la distinction entre décision et choix. C'est-à-dire qu'un choix, peut-être, c'est rationnel, c'est argumenté, et c'est la conséquence de cette argumentation. Alors que la décision, bah, c'est pas ça, c'est justement, on n'a pas vraiment argumenté, on n'en sait trop rien, mais on y va.
Oui, le corps qui exprime sa volonté sans rien demander à personne, c'est oui, la distinction est sans doute assez juste, et en tout cas, je crois que c'est celle-là qui opère souvent c'est souvent la décision qui, telle que vous la définissez, qui opère dans le vélo, et je pense dans beaucoup de situations de la vie courante où, finalement, c'est plutôt le bon sens qui agit plutôt que des choses apprises. Alors, bien sûr que l'apprentissage de certaines règles standards est important, mais ensuite, il faut les incorporer, ces règles-là. Et ce qui se passe sur le moment, c'est le bon sens, c'est des rapports humains naturels. Et ça, tous les livres de management que je critique beaucoup tendent plutôt à aller contre ça et à décrire les rapports humains comme des algorithmes ou de manière mathématique comme des interactions entre des X, des agents rationnels, mais j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça dans la vie.
Et d'ailleurs, vous avez dit un bon sens que le corps a incorporé. Le mot est intéressant. Ça aussi, c'est l'intelligence du corps. Il y a des choses qu'on sait faire. Voilà, c'est Descartes qui disait, par exemple, en regardant le joueur de lutte, il disait, voilà, en fait, c'est comme si ses mains se souvenaient et pas sa conscience. C'est ça aussi que vous éprouvez en tant que sportif.
Il y a une vraie mémoire du corps. Là, on peut parler des descentes. Il y a 2 ans, j'ai fait une chute assez lourde. Et ensuite, j'étais pas très bon dans les descentes. Et je savais rationnellement ce qu'il fallait faire, qu'il fallait pencher le genou, appuyer à tel endroit du vélo, regarder au loin. Malgré tout, je descendais pas bien parce que j'avais la mémoire de cette chute. Et puis, le temps passe, l'oubli arrive. Et puis, le corps réapprend petit à petit de lui-même, sans trop qu'on sache comment ou pourquoi, à descendre. Donc, il est autonome.
C'est vrai que c'est Nietzsche aussi qui disait que le surhumain, donc, et on a compris grâce à vous, et non pas le surhomme, hein, c'est-à-dire en fait le pleinement humain, a besoin aussi d'un peu oublier pour retrouver un sens du présent et n'être pas alourdi par tout ce qui vient du passé. Je vous ai proposé un petit extrait intéressant, précisément sur la mémoire du corps.
Notre corps, c'est nous d'abord. Je dicte toujours un petit peu quand on sépare le corps et l'esprit. Il n'y a pas de dualité entre le corps et l'esprit. On veut l'ignorer et on cherche à le fuir, à se fuir en réalité, puisque notre corps a subi des stress, des souffrances, des répressions depuis la naissance, et ça, on l'oublie. Et en réalité, il en est marqué, il en reste imprégné.
Vous voulez dire que le corps a une mémoire absolue ?
Certainement.
Alors, est-ce que vous connaissez cette femme ? C'est Thérèse Bertherat. Alors, ça peut vous intéresser, ainsi qu'à vous, chers auditeurs, parce qu'elle a écrit ce livre, Le corps a ses raisons, et elle a créé un mouvement qui s'appelle le mouvement de l'anti-gymnastique. Elle est kiné à la base. C'est un livre qui a été un des premiers best-sellers sur la gymnastique. Elle explique justement qu'il faut arrêter de penser la gymnastique comme juste un travail sur le corps, les assouplissements et les tendons, mais que c'est un rapport au monde et qu'au fond, le corps, bah, de toute façon, il faut peut-être sortir d'une posture dualiste. C'est ça aussi que vous proposez. Quand vous dites le corps est intelligent, le corps pense, bah, c'est un corps, c'est qu'en fait, on est sorti de l'idée qu'il y aurait une séparation du corps et de l'esprit très claire.
Oui, pour travailler ça, l'extrait qui a été proposé, je trouve ça très très juste, effectivement. Et pour, il faut sortir certainement de notre conception occidentale de la gymnastique et peut-être s'orienter vers l'Orient, justement, et d'autres manières d'envisager le corps, d'autres pratiques. Et je pense que dans les arts martiaux orientaux, dans toute la philosophie orientale, il y a certainement un rapport différent au corps à laquelle on n'est pas familier, mais
vous pratiquez plus.
J'ai fait de l'aïkido pendant 10 ans. Mon père était professeur d'aïkido.
Ah oui.
J'ai fait très jeune. J'ai arrêté à 14 ans, mais j'en ai fait, oui.
Alors venons-en maintenant à la question du collectif et à votre autre livre, La société du peloton, philosophie de l'individu dans le groupe, paru aussi aux éditions Grasset. Parce que votre démarche est très intéressante, vous montrez que peut-être la question du peloton peut nous permettre d'éclairer ce que c'est que le vivre ensemble.
Oui, je partais d'un univers que je connais assez bien, l'univers du cyclisme et ce sport dont on dit qu'il est un sport individuel pratiqué en équipe. Et je fais la comparaison avec la vie en société qui est enracinée dans nos corps, attachée à nos corps, qu'on le veuille ou non. Donc on est des individus. Et malgré tout, on est obligé de vivre en équipe, de
obligé.
Vivre dans une société, ouais. Que ce soit pour le travail, pour les relations amicales, amoureuses, et plein d'autres situations. Et c'est ça tout le paradoxe et tout le défi. Alors là, je vais m'écarter un peu de Nietzsche pour parler de Kant. Je reprenais finalement son concept d'insociable sociabilité, cette idée que ce paradoxe, on veut à tout prix s'éloigner du groupe. On a toujours la tentation de l'île déserte. La société nous exaspère et les autres nous l'enfer, c'est les autres. On a envie de partir. Et puis évidemment, dès qu'on est sur une île déserte, on s'ennuie. Et on a envie que d'une chose, c'est de retrouver les autres. Et c'est ça tout le...
Mais quand vous avez réussi à vous échapper du peloton, vous êtes bien, vous n'avez pas envie de retrouver le peloton?
Ah si, parce que c'est dur, tout seul, justement, contre le vent, sans personne qui puisse nous aider à prendre des relais.
Oui.
On avance beaucoup plus vite ensemble.
Et ça, c'est en prenant la route, c'est ça?
C'est une grande vérité. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut savoir... je fais un détour scientifique presque. Quand on est au plein milieu du peloton, on dépense près de 90% d'énergie en moins par rapport à si on est tout seul.
90% 300 mètres
dans le
à ce moment-là.
Ça, ah oui, c'est vraiment.
Donc c'est vraiment un effet de comme on est happé par
l'aspiration.
Ouais, c'est ça.
C'est l'aspiration.
Ah, c'est dingue. Ouais.
Et donc si on est deuxième, c'est peut-être simplement 50%, mais néanmoins, c'est quand même.
Ah, donc ça veut dire que votre métaphore, elle est vraiment pertinente parce que j'avais pas vu que c'était à ce point-là. Si on l'exporte à la société, c'est le projet de votre livre, à la société du peloton, ça veut dire qu'en effet, quand on est bien au chaud dans le troupeau, quand on ne prend pas de risque, quand on se soumet à la norme, au conformisme, on est vraiment beaucoup, beaucoup porté. Et que c'est très difficile, ce que dit Freud aussi dans son livre Le malaise de la civilisation, c'est très difficile, en fait, de sortir du troupeau pour essayer d'exister comme un individu.
Oui, mais j'ai pas envie non plus de présenter une position trop critique à l'égard de la société, parce que je crois que c'est nécessaire, à un moment donné, de s'associer à...
On comprend bien.
D'autres, on fait beaucoup plus de choses en entreprise, en collectif, évidemment que tout seul. Après, il faut pas non plus étouffer totalement l'individu, parce que je pense, par exemple, que les grandes inventions sont souvent le fait d'individus, géniaux, et que si on leur impose peut-être trop de normes, trop de contraintes, ou la contrainte d'agir vraiment dans un cadre collectif trop précis,
ouais.
Cette génialité ne peut pas s'exprimer. Donc, il y a certainement une balance à...
Ça, c'est
à
le moment où vous lâchez l'oreillette et vous dites « j'y vais ». Est-ce que vous connaissez la métaphore des porcs épics de Schopenhauer?
Non, je...
Alors c'est dingue, parce que je pensais que vous la connaissiez, parce que dans votre livre, vous dites un peu la même chose que Schopenhauer. Il dit voilà, imaginez des porcs épics. Quand ils sont trop éloignés les uns des autres, donc évidemment l'idée c'est qu'on est nous comme des porcs épics, quand ils sont trop éloignés, ils s'ennuient, ils ont froid. Et alors ils se rapprochent pour se tenir chaud, mais quand ils s'approchent trop, ils se piquent et ils s'exaspèrent. Et donc on n'a pas le choix, on est pris comme ça dans un mouvement, on ne cesse de s'éloigner et de se manquer, et de se rapprocher et de se faire du mal.
C'est exactement ça.
C'est ça, le peloton. Et vous dites aussi qu'il faudrait viser une resolidarisation, parce qu'au fond, la solidarité naturelle ne marche pas. Vous pouvez nous expliquer ça? Et expliquer en quoi le cycliste vous l'a appris?
quand je parle de resolidarisation, c'est un mot que j'ai inventé, que j'oppose effectivement à cette notion de solidarité qu'on sort un petit peu à toutes les sauces, qui sur le papier est une belle notion, mais qui est peut-être une valeur qui est trop imposante et présentée comme un idéal, finalement qui manque son effet. Quand on nous présente comme ça des idéaux à atteindre ou des valeurs à atteindre, j'ai l'impression qu'on est... déjà, on se sent tout petit par rapport à ça et on se sent assez vite impuissant. Et je pense que la notion de resolidarisation témoigne d'une action déjà et sous-entend que c'est à nous-mêmes d'agir au quotidien, à petite échelle, et
vous en développant
des relations sincères et authentiques avec les personnes qui nous entourent, avec l'environnement qui nous entoure. Être la solidarité, être solidaire du monde entier, ça semble impossible. Ouais. Et par rapport à la question du réchauffement climatique, par exemple, on peut faire un lien. On nous dit vraiment toujours, on sait tous ce qu'il faudrait faire, mais le défi nous paraît tellement immense que j'ai l'impression que pas grand monde fait vraiment grand chose. Et finalement, on va assez droit à la catastrophe. Alors que si simplement on se concentre sur ce qui nous entoure, sur voilà notre petite échelle. C'est jamais, peut-être ça va pas marcher, mais au moins...
On commence par agir, voilà. Par se resolidariser, et peut-être on arrête d'être écrasé par des injonctions trop tyranniques. Et on sent aussi le vécu de votre expérience de sportif dans ce sens du concret, et je dirais des petits pas, ou des petites roues pour dire ça ainsi. Merci beaucoup Guillaume Martin d'avoir été parmi nous sous le soleil de Platon. Pour vous remercier, je vais essayer de dégager pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre et qu'on a, je crois, entendu ce matin. Alors évidemment, une philosophie nietzschéenne, mais pas le Nietzsche cliché, pas le Nietzsche qui veut écraser les autres, pas le Nietzsche mal compris. Le vrai Nietzsche, celui qui dit que le surhumain est pleinement humain et pas surhomme. Une philosophie aussi, bien sûr, spinoziste, c'est-à-dire d'émerveillement, au fond, devant ce que peut le corps, une fois qu'on a évidemment compris que ce corps n'est pas séparé de l'esprit, que ce corps est intelligent, que ce corps pense et que ce corps connaît l'ivresse de se dépasser au milieu des autres, au milieu du peloton, et puis parfois de tenter sa chance, de s'échapper. Et on conclura sur ça, c'est tellement joli ce mot que nous avait permis d'entendre avec une oreille nouvelle, s'échapper. Et si c'était pas notre but à tous de réussir enfin à s'échapper. Merci beaucoup Guillaume Martin.
Merci.
Cette émission a été préparée par Vera Lou Derry et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Mathy, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Ronan Mahé. Quant à vous, je vous dis à demain matin sous le soleil de Platon. Bonjour Eva Rock, à suivre tout de suite l'été comme jamais. Quel est le programme aujourd'hui ?
Bonjour Charles, nous allons évoquer un sujet qui prête souvent à sourire, la répartie.